La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, les taux directeurs n'ont pas bougé, mais tout indique que les taux d'intérêt vont finir par augmenter.
Oui, mais là, pour l'instant, hein, on a mis ça sur pause, puis c'est intéressant, là, la danse, le tango canadien-américain. On se dit qu'il faut monter en même temps, donc on suit tranquillement, on se regarde, on s'observe, parce que si le Canada augmente ses taux plus vite que les États-Unis, ce qui va arriver, c'est que les taux sans risque au Canada vont être plus intéressants, ça va attirer des investissements, et donc ça va faire monter le dollar. Mais nous, les Canadiens, on veut pas tant que ça un dollar trop fort quand on veut exporter. Donc, c'est ce jeu-là. En même temps, on veut pas non plus donner un coup à nos gens qui ont emprunté sur des prêts immobiliers à taux variable trop rapidement. Mais on veut quand même dire, envoyer le message, là. Nous voulons retourner à un taux d'équilibre non favorable. Et donc, préparez-vous tranquillement. Et là, les gens m'écrivent puis me disent, Pierre-Yves, est-ce que je dois geler mon taux? Est-ce que je dois signer fixe, variable? Là, je dis, calmez-vous. Je ne peux pas vous le dire. Les taux d'intérêt, c'est un choix. Vous prenez le risque de négocier un taux variable à rabais, mais vous prenez le risque qu'il y ait une augmentation plus tard. C'est à vous de décider. Et parfois, refinancer un prêt pour prévenir la hausse, c'est de payer aussi une pénalité. Donc, faites des calculs, parlez à vos courtiers hypothécaires, faites vos propres analyses avec vos propres budgets. Moi, personnellement, je suis variable. Puis j'ai déjà été fixe quand j'étais moins sécuritaire, disons, financièrement. Mais maintenant, je suis variable, puis je reste variable, puis c'est mon choix personnel. Mais je vais jamais aller dire aux gens, signer variable, c'est pas capable d'absorber une hausse de 1,5%. Donc, faut juste se préparer mentalement. Et l'autre point, c'est de se dire, quand vous signez variable ou fixe, négociez. Parce que le taux variable, l'important, présentement, c'est de signer un bon rabais sur le taux préférentiel parce que les banques savent qu'elles doivent vous l'offrir. Donc, négociez fort. Évidemment, en bourse, ben hier avec ça, les titres technologiques ont explosé pour revenir à la normale après parce que il y a des gens qui s'attendaient peut-être à une hausse et donc, disons qu'ils avaient canardé volontairement leur placement en techno pour prévenir la baisse. Puis là, maintenant que la baisse n'a pas eu lieu, les gens ont réinvesti massivement en techno pour profiter de la volatilité. Puis les spéculateurs sont sortis. Donc, tu vois que hier ça a bougé beaucoup, puis en fin de journée, c'était pas une hausse phénoménale.
Mais est-ce que je comprends que ce qu'on devine pour l'année en cours, là, c'est peut-être une augmentation au mois de mars et quand même un certain nombre d'augmentations d'ici la fin de l'année?
Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit, qu'on analyse, qu'on dit 2-3 augmentations. Mais encore là, tout dépend des statistiques sur l'inflation. Tout dépend de ce qui arrive avec les variants, puis tout dépend aussi de la vision à long terme des courbes d'intérêt. Mais pour l'instant, on reporte. Hein? Fermez les yeux. C'est comme quand tu reçois ton bill de carte de crédit, puis là, tu reçois le bill, puis ah, j'ai fermé les yeux, je l'ai pas ouvert, il n'existe pas. Ça va arriver, mais pas tout de suite.
OK, t'as un message d'amour pour tes amis courtiers immobiliers.
Oui, j'ai un message d'amour.
Pourquoi?
T'sais, on vit dans un monde libre, puis je voulais leur dire que je les aime, parce qu'ils ont l'air à pas m'aimer, puis là, je reçois des affaires. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Je suis un gars qui aime beaucoup ça, regarder Centris, puis regarder. Et parfois, sur ma page privée, je fais des publications qui sont partagées. Les gens aiment ça, trouvent ça taquin. Donc, je fais des publications sur Centris. Puis la semaine dernière, encore une fois, j'en vois une, tu sais, sur la 6e avenue à Montréal, une maison qui, en 1995, s'est vendue 78 000. Elle s'est revendue 352 000 en 2018. Et là, elle est à vendre 1,78 millions. Pourquoi? Parce qu'elle a été fortement rénovée, agrandie, changée complètement. Et tout ce que j'écris, c'est évolution d'une maison de 1995 à aujourd'hui sur la 6e avenue à Rosemont. Pas de commentaires, ni positifs, ni négatifs. Et là, je reçois des courriels. Oh, vous avez eu cette information-là. Qui vous l'a donné? Vous n'avez pas le droit de publier ça. Je dis, voyons donc, là. Messieurs, mesdames, les courtiers. Je sais que vous avez sur votre plateforme accès à tous les prix de vente des dernières années et les dernières transactions. Puis nous, on n'a pas ça facilement comme vous. Puis que ça vous choque bien gros que je prenne une information qui a été prise d'une façon X, puis que je la publie, puis là, vous cherchez le coupable. Mais pourquoi vous êtes si challengé qu'on parle d'immobilier quand on n'est pas courtier? Ça vous dérange parce que je dis pas ce que vous voulez dire, c'est correct. Mais vous avez le droit de penser différemment. Puis j'ai le droit de penser différemment. Puis plus vous m'envoyez des taquineries, puis vous parlez contre moi dans vos groupes, puis que j'en entends parler, plus j'ai goût d'en publier. Donc, vous êtes courtier, vous avez le travail pour votre client de maximiser son prix de vente, Et moi, comme acheteur, comme client, comme personne, j'ai le droit de parler puis de dire « cette maison-là me semble un peu chère » ou « peu importe, c'est pas grave, ça vous enlève rien. Ça enlève rien à la qualité de votre travail puis à la valeur de ce que vous faites. Pourquoi vous vous sentez menacé chaque fois? » Et là, il y en a qui disent « si jamais je commençais à faire de la comptabilité, de la fiscalité puis de la finance, qu'est-ce que tu dirais? » Ben, allez-y, mais vous allez peut-être vous planter parce que ce que vous allez dire, vous allez être jugé là-dessus. Donc, c'est votre choix. Tu sais, l'immobilier, Paul, là, c'est tellement simple. Offre, demande, marché. Pas compliqué, là. Tu sais, je veux dire, ça prend pas un PhD, là, pour analyser la vente d'un immeuble. Tu regardes les comparables, tu regardes la valeur de l'immeuble, tu regardes les rénos, puis tu dis, bon, OK, vous en faites beaucoup, vous faites du volume, tant mieux. Mais c'est une job, puis c'est un marché, puis on a le droit d'observer le marché. Donc, au lieu d'attaquer des gens qui taquinent le marché de façon bien personnelle, ben, faites une bonne job, puis vous allez maintenir votre valeur, il n'y en a pas de problème. Si je vends ma maison, je vous promets même de vous appeler un jour, parce que ça me tente pas de voir des visiteurs me dire « En as-tu vraiment besoin? » Et donc, puis c'est vrai qu'il y a des stratégies, puis des fois, on n'ose pas le dire. Je te donne un exemple. Sur TikTok, il y a Gauthier qui dit « Bon, je vous donne ma stratégie pour augmenter la valeur de la maison, facile, pour augmenter, mais faire des visites. » Il dit « Vous affichez le lundi, hein, la maison. » Vous prenez des visites toute la semaine, mais vous en faites aucune. Vous prenez ça pour la fin de semaine. Là, vous mettez les vendeurs, les acheteurs en concurrence, puis vous leur dites, on prend les offres d'achat jusqu'à, disons, lundi, mardi. Donc, vous leur mettez de la pression. Vous faites semblant, c'est pas semblant, mais vous créez un effet de pression. Et donc, ça va générer des offres, puis, tu sais, de la surenchère. Ben, écoute.
Ça dépend du marché aussi. Ben,
oui.
Ben,
oui.
Peut-être de ce temps-là, mais il y a une époque, c'était pas vrai.
Ben, il y a une époque, tu mettais ta maison en vente, puis t'attendais, puis c'était 6 mois. Mais ce que je dis simplement, c'est que c'est une game de vente. De mettre ta maison belle, puis de créer une plus-value, puis de créer un sentiment d'urgence présentement chez l'acheteur. C'est une game. Pourquoi on le dit pas? Tu sais, c'est pas grave. C'est votre job. Dites-moi pas que votre job, c'est de vendre pas cher, là. C'est votre commission est en fonction de ça, puis c'est bien correct. Moi, je les aime, les courtiers, j'en connais, puis ils sont bien gentils, puis je comprends pas qu'on puisse pas prendre un site comme Centris, montrer des maisons chères ou des terrains chers, puis dire « Ouais! » C'est cher. Puis que ça soit... Hey, qu'est-ce que tu connais là-dedans? C'est juste de l'immobilier. C'est juste ça. Puis pour devenir courtier, ça prend pas 8 ans d'études, là. Come on. Donc, c'est correct. Puis on va y aller ensemble, mais comprenez les familles. Parce que c'est bien beau de dire « vente record dans tel secteur ». Moi, après ça, là, j'ai reçu les courriels des familles qui arrivent pas, puis des gens qui ont des paiements hypothécaires, puis qu'il y a des séparations ou qu'il y a autre chose. Et donc, la réalité après, elle existe aussi. L'épicerie se paye après aussi. L'inflation existe après aussi. C'est pas juste une question de « je connais ça, puis le marché d'offre et de demande ». C'est de dire « oui, pour une famille moyenne achetée à Montréal, c'est rendu complètement hors de prix ». D'ailleurs, Paul, je vois pas... Tu sais, une année, tu te dis « je vais-tu sacrifier ma vie pour vivre à Montréal? » Absolument. Où je vais dire, hey, tu sais, ça commence à être hors de prix. Pourquoi je fais ça? Il y a beaucoup de familles qui se disent, pourquoi je me mets cette pression-là de m'hypothéquer à gorge pour 25 ans pour avoir la chance d'être dans cette ville-là? Qu'est-ce qu'elle m'apporte de plus? Et ça, là, c'est le grand défi de Valérie Plante. Démontrer aux gens qu'être Montréalais, ça vaut encore la peine.
Boy!
Ah oui, mais parce que pour vrai, Paul, tu sais, moi maintenant, j'ai des moyens. Si j'étais plus jeune, là, parce que là, je commence à vieillir, puis j'ai déjà mon actif immobilier, donc j'étais un peu couvert financièrement. Mais, hey, j'ai 22 ans, je commence à travailler, je gagne, mettons, 50 000 parce que j'ai une diplomation, là, je suis chanceux, 25$ de l'heure. Puis là, on me dit, hey, tu veux t'acheter un 5,5? Hey, ça, c'est gros, ça, un 5,5 à Paul. Tu veux t'acheter un 5,5, c'est 525 000, donc avec 100 quelques 000 de vis de fond, tu devrais être bon. Ouais, mais je sors de mes études. Tu sais, tu commences à te dire, à un moment donné, c'est trop de pression pour un jeune, ça sert à quoi, tu sais? Tu peux le faire, là, puis ça se peut que ça monte encore comme Toronto puis Vancouver, puis que l'offre et la demande soient pas balancées pendant une décennie, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on veut que notre vie, ça soit ça? Passer notre vie à essayer de payer une maison? C'est complètement fou.
Alors, on va prendre tes courriels de tes
amis.
Ben
oui, puis hey, je veux leur dire quelque chose. Je vous aime, c'est la Saint-Valentin. Hein? Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais écrire une carte de Saint-Valentin, un courtier au hasard. Je vais dire « je t'aime », puis je vais y envoyer cette semaine. Je vais aller dans les
On va préparer ta carte.
Ben oui, salut.
Salut. Allez!
C'est 23.